Quelle joie de vous rencontrer à nouveau.
Et
Bon,
vous alors,
Rachel,
Fogda,
déjà
comment vous
124 élèves à vous
la
écouter
boîte?
ce matin. On demande de fermer les micros et les amis s'ils ont une question. Bien sûr, le chat reste ouvert. Bechamodara. Shalom. Bon, on m'a demandé, monsieur On, m'a demandé d'entretenir d'un sujet intéressant qui est pourquoi est-ce que nous avons deux dates d'événements de Géoula, de libération dans le mois de Iyar. Pourquoi est-ce que la Providence n'a pas veillé à ce que ce soit le même jour, qu'il y ait le jour de l'indépendance et le jour de la libération de Jérusalem? Alors, à ce propos, il faudrait d'abord analyser quelle est la nature du mois de Iyar, ce grand mois dans lequel se passent ces événements merveilleux qui sont le jour de Yom HaAtzmaout et le jour de Yom Yerushalayim. Alors, pour savoir la nature du mois, il faut voir quelle est la fête instituée par la Torah lors du mois de Iyar. La fête instituée, comme vous le savez, c'est écrit en toutes lettres dans la paracha de Beha'alotra dans le livre de Bamidbar. Il s'agit de Pessah Sheni. Pessah Sheni, le deuxième Pessah, est un événement assez surprenant. D'abord, il ne fait pas partie de la liste primordiale des fêtes du calendrier. En effet, vous avez, dans beaucoup d'endroits dans la Torah, vous avez une liste des fêtes qui sont fondamentalement Pessah, le septième jour de Pessah, ainsi que Shavuot et Sukkot, ainsi que Simchat Torah. Parfois, la Torah ajoute également Rosh Hashanah et Yom Kippour, mais nulle part elle ne dit qu'il y a le deuxième Pessah. Elle le dit de manière quasiment accidentelle. C'est-à-dire que la Torah nous raconte que lors de la deuxième année de la sortie d'Égypte, donc après un an passé dans le désert, la Torah ordonne aux enfants d'Israël de faire le sacrifice de Pessah dans le désert. Ce qui n'était pas du tout évident, étant donné que la fête de Pessah doit être, le sacrifice de Pessah doit être fait en Eretz Israël. Et donc, c'était, si vous voulez, une avant-première dans le désert. En principe, ce n'était pas censé être fait, mais ça a été nécessaire pour réparer la faute du veau d'or. Bon, je rentre pas dans les détails de tout ça, mais à part ça, pendant les 38 ans qui sont venus après cet événement, les enfants d'Israël n'ont pas fait le sacrifice de Pessah jusqu'à ce qu'ils soient entrés en Eretz Israël au temps de Yehoshua. Et donc, Josué. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce que... alors, ce qui se passe à ce moment-là, bon, les enfants d'Israël à l'époque ne savent pas qu'il va se passer encore 38 ans sans faire le Pessah. Et il y a un groupe d'individus qui étaient impurs. Ils étaient impurs parce qu'ils avaient été en contact avec un mort. Quels sont les morts en question? Avec quel mort ont-ils été en contact? Il y a à ce propos différentes interprétations. Ceux qui disent ils étaient ceux qui portaient les ossements de Yosef, qu'ils amenaient d'Égypte pour les enterrer en Canaan. D'autres disent que c'était ceux qui avaient enterré Nadav et Avihu lors de l'inauguration du Mishkan. Quoi qu'il en soit, il y a un groupe qui sont impurs. Or, des hommes impurs ne font pas le Pessah. Ils sont très angoissés. Ils vont voir Moshe. Ils lui disent, pourquoi serions-nous retranchés de l'Assemblée d'Israël et ne pas faire le Korban Pessah? La réaction de Moshe est extrêmement surprenante. Il dit, je vais demander au patron, c'est-à-dire à Dieu. Et c'est très bizarre parce que quand quelqu'un est dispensé d'accomplir une mitzvah pour des raisons d'impureté, par exemple, eh bien on lui dit, bah, ce n'est pas grave, il y a un principe, Anus Rahamana Patre, celui qui est contraint est dispensé par la Torah. Et donc si la Torah a dit qu'un homme impur ne fait pas le Korban Pessah, bah, ce n'est pas grave, tu le feras l'année prochaine. À l'époque, il ne savait pas que l'année prochaine se passerait encore dans le désert. Donc pourquoi est-ce que Moshe ne leur répond pas tout simplement comme ça? Au contraire, il prend la question très au sérieux, il va interroger le bon Dieu qui lui répond, eh bien,
que ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessah fassent un deuxième Pessah le 14 du mois d'Iyar, le 14e jour du deuxième mois. On n'a jamais vu ça. Par exemple, imaginez que quelqu'un a été contraint de ne pas jeûner le jour de Kippour. Est-ce qu'on lui dit qu'il fait un deuxième Kippour un mois après? Non. Si quelqu'un n'a pas pu habiter dans la souka à Soukhot, on ne lui dit pas tu vas faire une autre souka plus tard. On lui dit tu feras l'année prochaine. Et là, par contre, Moshe prend très au sérieux cette histoire du Pessah Sheni. Alors, pour le comprendre, c'est que quand on fait le Korban Pessah, on sort d'Égypte. C'est-à-dire, nous revivons existentiellement le moment de la sortie d'Égypte. Quand nous arrivons à la fête de Shavuot, nous revivons l'expérience, le vécu du don de la Torah. Et donc, ce qui était inquiétant pour ce groupe-là, c'est qu'il risquait de recevoir la Torah sans sortir d'Égypte. C'est-à-dire de passer par le spirituel sans faire précéder le national. Or, c'est très inquiétant parce que qu'est-ce que c'est qu'une Torah spirituelle sans base nationale? C'est ce qu'on appelle le christianisme, avant l'heure. Et donc, ces individus ne voulaient pas être en dehors d'Israël, c'est-à-dire d'accepter la Torah sans passer par l'indépendance. Et c'est pour ça qu'ils étaient tellement inquiets, et donc Moshe a pris au sérieux leur demande. De plus, qu'est-ce qui se passe? C'est le seul cas dans toute la Torah où une mitzvah commence par l'initiative. Enfin, c'est pas la seule, mais enfin, c'est une des mitzvot dans la Torah qui commence par l'initiative des enfants d'Israël. C'est exactement le contraire de ce qui se passe au mois de Nissan. Au mois de Nissan, pour employer une expression en araméen du Zohar, il y a ce qu'on appelle Itaruta Dil'ela, un flux qui est déversé depuis le haut. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Tandis que dans le mois de Iyar, c'est un éveil qui vient de la nation, ça passe par le bas, du bas vers le haut, Itaruta Diltata, un éveil qui vient du bas. D'ailleurs, remarquez qu'il y a toute une série de mitzvot de ce genre dans la Torah, cette série de mitzvot où Moshe n'a pas la réponse à la question. Et c'est à chaque fois lié, de manière surprenante, à la tribu de Yosef. Yosef qui représente la force nationale, tandis que Moshe, d'une certaine manière, représente la force religieuse. Et donc, là où s'arrête le religieux, commence le national et inversement. Et donc, c'est ça qui se passe lors du mois de Iyar. Il y a un éveil qui vient de la nation et qui se manifeste dans l'histoire de différentes manières. Une des manifestations de ce désir, c'est effectivement les élèves de Rabbi Akiva qui participent à la révolte de Bar Kokhba et qui vont tenter de rétablir l'indépendance des enfants d'Israël en Eretz Israël. Ça n'a pas marché, c'est la raison pour laquelle la période de l'Omer, qui est une période de joie d'après Nachmanide, est devenue une période de deuil. Bon, d'accord, ça se comprend. Maintenant, une fois que nous avons compris un peu qu'est-ce que c'est que le mois de Iyar, c'est-à-dire c'est le mois de l'éveil des enfants d'Israël, c'est donc normal que dans l'histoire, au moment où le projet historique d'Israël réussit, ben, ça se passe au mois de Iyar. Et ça se passe de deux manières. D'une part, par le rétablissement de l'indépendance politique, c'est Yom HaAtzmaout, et d'autre part, le rétablissement de la force d'Israël, sa force spirituelle aussi, par la conquête du Har HaBaït, le jour de Yom Yerushalayim. Maintenant, si je reviens au texte de la Torah à propos de Pessah Sheni, la Torah nous dit qu'il y a deux cas où l'on est dispensé du premier Pessah. C'est si on est impur ou éloigné. Tamé obederech rechoka. C'est-à-dire, si on a contracté une impureté, on ne peut pas faire le Korban Pessah, on ne peut pas faire le sacrifice. Et si on est loin, on est très éloigné du lieu du sacrifice, on est également dispensé. Maintenant, si on extrapole un peu, c'est quoi être impur au niveau de la nation d'Israël? Eh bien, il s'agit des péchés qui nous ont envoyés en exil. Donc, tant qu'on est sous le coup des péchés, nous ne pouvons pas revenir à notre indépendance. C'est-à-dire, comme dit le Rav Kook, tant qu'on a le sentiment de la culpabilité, on est incapable de sortir de son exil. C'est ça l'impureté. Il y a également parfois l'éloignement, c'est-à-dire non pas par impureté, mais par des circonstances historiques qui font que nous sommes éloignés de notre terre, nous n'avons pas la capacité de revenir, là aussi nous sommes dispensés de la libération nationale. Mais la Torah rajoute, attention, si quelqu'un n'est pas impur, et qu'il n'est pas éloigné, et qu'il ne veut pas faire le Pessah. Alors essayons de traduire ce que ça veut dire au niveau du clan, au niveau de la collectivité. Ça veut dire, si quelqu'un n'est pas impur, c'est-à-dire il n'a pas de péché. Au contraire, c'est un des tzadikim. La nation d'Israël aussi peut être des tzadikas dans le sens où elle a déjà réparé les péchés qui ont entraîné l'exil. Et qu'on n'est pas dans un lieu éloigné, c'est-à-dire qu'on habite par exemple en Eretz Israël. Mais qu'on refuse l'indépendance, c'est alors qu'on est retranché de la communauté d'Israël. Mais donc techniquement, on ne devrait pas faire Pessah en dehors d'Israël? Ou peut-être ai-je mal compris? Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ou peut-être ai-je mal compris? Techniquement, on ne fait pas le Pessah en dehors d'Israël. C'est quoi Pessah? C'est le sacrifice. Le sacrifice, je crois que personne ne le fait aujourd'hui, ni en Houtz-Laharetz, ni en Israël. Mais quand on le fera, ça sera dans le Beth Amikdash, évidemment. Donc, je reviens à ce que c'est l'avertissement de la Torah. On peut être dispensé si on est impur ou si on est loin, mais si on n'est ni impur ni loin, on doit se libérer. Et donc ça implique qu'il y a deux manières de sortir de la galoute. La première, c'est de ne pas être éloigné. Ce qu'on appelle le derech rechoka, ça a été réparé lors de Yom HaAtzmaout. La deuxième, c'est quand on a accédé à un certain niveau spirituel qui est celui du Beth Amikdash, c'est à cela que nous sommes arrivés à Yom Yerushalayim. Ce qui explique pourquoi Yom HaAtzmaout se trouve proche de Pessah, c'est de la même nature, c'est une fête de libération. Et Yom Yerushalayim est proche de Shavuot, c'est de la même nature, c'est une fête, d'élévation spirituelle. Donc ça commence à donner une réponse à la question qu'on m'a posée, pourquoi est-ce que c'est divisé en deux? Mais allons un peu plus loin. Il y a un verset du prophète Yeshayahu, Isaïe, qui dit: Al har gavoa ali lach mevaseret Sion, harimi bakoach koler mevaseret Yerushalayim. Je reprends, ce qui veut dire sur une montagne élevée, monte pour toi-même, annonciatrice de Sion, élève avec force ta voix, toi qui annonces Jérusalem. Alors, si vous connaissez le principe de la. Il y a quelque chose qui ressemble à la gématria, ce qu'on appelle le notaricon. Un notaricon, ça s'appelle un jeu de mots sur la consonance. Le mot har, une montagne élevée, c'est un notaricon de He Iyar, 5 du mois de Iyar. C'est-à-dire le jour de Yom HaAtzmaout, et ça s'appelle Mevaseret Tzion, annonciatrice de Sion. C'est-à-dire la réussite du sionisme. Le sionisme qui a pour finalité l'établissement d'un État en Eretz Israël. Mais après, c'est Harimi Bakoach Koler, lève avec force ta voix. Force en hébreu se dit Koach, c'est-à-dire 28. Le 28 du mois d'Iyar, Mevaseret Yerushalayim, annonciatrice de Jérusalem. Donc on voit que le prophète Isaïe a compris qu'il y a deux annonciations, l'annonciation de Sion, l'annonciation de Jérusalem. Ce qui veut dire que déjà chez le prophète, il y a une distinction entre les deux niveaux. Et remarquons une chose intéressante. D'abord, pour ce qui est du mois de la date He Iyar. Il y a un texte des Tosfot au nom de Rabbeinu Tam dans le traité de Rosh Hashanah. Rabbeinu Tam, vous vous rappelez, le petit-fils de Rashi, qui analyse le texte de la Gemara et arrive à la conclusion qu'il y a, d'après le texte, une mitzvah, un commandement, d'observer la lune 30 jours avant Shavuot. Pourquoi? Pour savoir à quoi ressemblera le croissant lunaire à Shavuot, pour qu'on ne se trompe pas sur la date. Ce qui veut dire que les 30 jours avant, ben c'est Hayom HaAtzmaout, ou le 5 Iyar. C'est 30 jours avant Shavuot. C'est-à-dire qu'il y a une préparation à recevoir la Torah qui passe tout d'abord par le rétablissement de la forme de la lune. La lune est un symbole d'Israël, c'est ce qu'on dit dans la bénédiction sur le renouvellement de la lune. Et donc il faut voir de quoi ça aura l'air. Ça veut dire que il y a un moment dans l'histoire où la lune, c'est-à-dire Israël, sort de l'obscurité. Et chez les kabbalistes, est-ce que Tzion n'est pas l'Yerushalayim, Mimken, Lama, Léafrid, Benem? On va tout de suite y arriver, ne vous en faites pas. Il y a donc le jour de Yom HaAtzmaout, c'est celui que les kabbalistes appellent Yesod Sheba Tiferet, le fondement, la fécondité de la splendeur. La splendeur, c'est-à-dire la splendeur d'Israël. Si vous regardez dans le livre de Megillat Echa, des Lamentations de Jérémie, il est dit à propos de la destruction du temple, Ishlir Mishamaim Eretz Tiferet Israël, il a jeté depuis le ciel jusqu'à la terre la splendeur d'Israël. C'est-à-dire la perte de l'indépendance et la perte de la splendeur Tiferet. Et quand cette splendeur revient et qu'elle est fécondée, c'est le Yesod. Alors si vous avez Yesod Sheva Tiferet, vous avez le jour de Yom HaAtzmaout. Mais c'est comme un enfant qui vient de naître. Qu'est-ce qui est plus important dans la vie d'un enfant? Le jour de la naissance ou le jour de la bar mitzvah? Alors vous allez me dire, lors de la bar mitzvah, on est tout content de voir qu'il est capable de lire la Torah. C'est sa fête de Shavuot. Mais le jour de la naissance, c'est le jour où il reçoit la vie, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que bien que extérieurement, les enfants, les parents sont plus heureux quand on voit l'enfant réussir, mais en vérité, ce qui est important, c'est la naissance. Or, cette naissance, c'est le jour de Yom HaAtzmaout, c'est le jour où la lune apparaît. Par contre, le jour de Yom Yerushalayim, ce 28, c'est le jour de la force. Koach. Alors, essayons d'expliquer un peu. Vous savez que il y a eu un moment dans l'histoire, un moment privilégié pourrait-on dire, où les nations ont volontiers accepté l'existence de l'État d'Israël, en 1948. Une des motivations de cette acceptation, c'était le fait que c'était après la Shoah. Après la Shoah, le peuple d'Israël a vécu une des plus grandes frappes de son histoire, 6 millions de pertes. Est-ce que ça aurait pu être le jour du Tiferet chez Bayesod qui est aujourd'hui? Sinon, alors pourquoi? La réponse d'abord est non. Deuxièmement, parce que ce qui est important, c'est le Tiferet qui doit revenir. À part ça, les événements ne sont pas ce que tu as proposé. Donc, on peut continuer. Par contre, ce qui est de Koar, le 28 du mois de Iyar, c'est le jour de la force. Alors je rappelle que lorsque l'État d'Israël a été fondé, il a été volontiers accepté par les grandes puissances parce que il y avait une sorte de compassion pour les enfants d'Israël qui avaient traversé l'événement terrible de la Shoah. Or, ça veut dire que l'État d'Israël était considéré un peu comme un refuge pour des handicapés, pour des malheureux. Et ce n'est que à partir de la guerre des Six Jours que la relation du monde envers Israël a changé, parce que Israël a commencé à se montrer dans sa puissance, dans sa force, Koach. Et ça entraîne deux réactions possibles, celle du rejet, soit de l'adhésion. Mais il n'y a plus d'indifférence. Il y avait un terme employé dans la culture générale, ce qu'on appelait l'héritage judéo-chrétien. Qu'est-ce qu'on entendait par judéo-christianisme? On entendait par là le christianisme en fait. C'est-à-dire ce qui était supposé, pas vraiment dit, mais ce qui était supposé dans cette expression de judéo-chrétien, c'est qu'en fait le judaïsme était le brouillon du christianisme. C'est-à-dire c'était la première phase quelque chose d'embryonnaire aurait réussi à travers le christianisme. Donc c'est ça que ça voulait dire, on ne pensait pas que les juifs avaient quelque chose à dire en tant que tel. À tel point même que Jean-Paul Sartre disait que le juif est une invention de l'antisémite, il n'existe pas par lui-même. Plus tard, Sartre a reconnu son erreur, il a dit « je pense qu'il y a une réalité du juif autant que pour toute autre nation, etc. » C'est-à-dire que, et ça, ce changement d'approche s'est fait grâce à la guerre des six jours. C'est là qu'on a commencé à entendre la voix d'Israël. D'ailleurs, il y a dans le livre de Kohelet, on dit « Chochmat amisken bezouya udvara venam nishmaim » « La sagesse du malheureux est méprisée, ses paroles ne sont pas entendues. » Mais à partir de la guerre des six jours, c'est là qu'on a commencé à se demander si les Juifs n'avaient quand même pas quelque chose à dire. Et donc c'est le moment donc de la force, Kohar. Rappelez-vous ce merveilleux texte de Rashi qui dit pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit? C'est à cause d'un verset de Tehilim. Le verset de Tehilim nous dit Kohar ma'asa vigid le'amo la tête la'em nachalat goyim. Il a révélé la puissance de ses œuvres à son peuple pour leur donner l'héritage des nations. Et ce verset est un peu problématique parce que ce verset semble dire que la terre de Canaan, la terre de Canaan, comme on dit en français, appartient aux nations. Et donc, ça c'est comme si ça avait été volé par les enfants d'Israël. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre. Au contraire, Manitou faisait remarquer que la question des nations auxquelles le verset de Bereshit est censé répondre, c'est la question non pas pourquoi est-ce que vous avez pris une terre qui n'est pas à vous, mais pourquoi est-ce que vous l'avez fait par conquête. L'istimatem shekibashtem, vous êtes des brigands parce que vous avez fait la conquête. Or, ce que les goïms en question qui posent cette question sont évidemment des goïms qui croient en la Torah, parce que sinon à quoi servirait un verset pour leur répondre? Qui sont les goïms qui croient en la Torah? Eh bien, ce sont les chrétiens. Et le christianisme étant l'essence spirituelle de la plus grande des civilisations dans l'histoire, donc la Torah, à l'avance, a déjà préparé la réponse à leur argument. Quel est l'argument de des chrétiens? La terre d'Israël est effectivement à vous. C'est écrit partout dans la Bible. On n'a pas besoin donc d'amener une preuve supplémentaire. Mais vous n'auriez pas dû la prendre par la violence. Parce que il n'y a pas de mérite de l'homme, il y a la grâce de Dieu. Et c'est donc que vous auriez dû attendre que Dieu vous donne sur un plateau d'argent cette terre. Vous n'avez pas le droit de la prendre par la violence. Et c'est là que nous répondons, Kohar ma'asa v'gid la'amo, la Torah nous a révélé que c'est par voie d'effort, par un droit de conquête, que Dieu fait ses cadeaux. C'est décrit où ça? Eh bien, c'est décrit dans le livre de Bereshit, quand Dieu crée le premier couple humain, l'homme et la femme, il leur dit « Mil'u et ha'aretz v'chivshuha »« Remplissez la terre et faites-en la conquête ». Ce qui veut donc dire que la manière dont Dieu donne ce qu'il donne, c'est avec la participation de l'effort humain, ça peut être donc la conquête. Or, c'est écrit dans le verset 28, Kohar, de Bereshit. C'est-à-dire, il a révélé à ses enfants la puissance, c'est-à-dire le droit d'employer la force dans l'organisation de son monde, pour leur donner en possession ce que les goïms considèrent simplement comme un héritage. Un héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit sans faire d'effort. Évidemment, ça se passe par une tragédie, mais on peut très bien dire à quelqu'un, le matin, voilà, cette nuit, votre arrière-grande-tante est décédée et vous héritez de son héritage. Tandis que c'est ce qu'on appelle Nahalat Goïm, c'est pour leur donner en acquisition ce que les Goïm considèrent uniquement comme une Nahala, Nahalat Goïm. Donc, à partir de ce, c'est donc là que la Torah nous a révélé qu'il fallait employer un élément de force pour accomplir, pour achever les promesses du Créateur. C'est ça qu'on appelle Kohar. Et c'est ça qui s'est manifesté lors de la guerre des six jours, lorsque les enfants d'Israël ont pris possession par la force de leur héritage. Et donc on voit très bien qu'il y a ici deux éléments. Un élément qui est celui de la légitimité du retour à l'indépendance, et puis après la légitimité du discours d'Israël, c'est le jour de Yom Yerushalayim, que les kabbalistes appellent Chesed Sheba Malchut, c'est-à-dire la bonté qui se manifeste au début de la royauté, et Jérusalem étant le lieu de la souveraineté d'Israël, la royauté, le régime politique, tandis que Eretz Israël, c'est le lieu national. Mais quand ça devient la conquête de la capitale, alors c'est là que ça devient Arimi Bakoar Koler. Donc on a compris un peu ce verset de Yeshayahu qui fait la différence entre Har Gavoa et Mevaseret Yerushalayim. La question qui a été posée par un des auditeurs, c'est mais pourquoi la différence entre Tzion et Yerushalayim? Alors là, il faut revenir un peu en arrière à l'histoire du sionisme. Il y avait, lors de la Première Guerre mondiale, lorsque le Rav Kook était à Londres. Il était à Londres à cause de la Première Guerre mondiale, il ne pouvait pas revenir en Eretz Israël. Et on a commencé à ce moment-là à lutter, il y avait vraiment une lutte engagée, pour obtenir la déclaration Balfour. Finalement, ça a marché. Le Rav Kook, d'ailleurs, a participé aux efforts nécessaires pour que cette déclaration soit faite. Et donc, là, il y a eu la déclaration Balfour. À cette même époque, quel chapitre de Brigitte? Chapitre 1, verset 28. Je reviens donc à ce qui se passait à Londres à l'époque. Le Rav Kook, donc, était présent. Il a dirigé sa communauté en attendant de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Il s'adresse également au chef du sionisme, à Nahum Sokolov et à Chaim Weizmann, qui à l'époque dirigeaient l'organisation sioniste mondiale. Herzl était déjà décédé à cette époque. Et alors il leur demande que l'organisation sioniste ne s'occupe pas uniquement de politique, mais également prennent sur elles de faire avancer ce qu'on appelle la culture spirituelle du peuple juif. En effet, l'idée du Rav Kook était qu'on ne peut pas parler de résurrection nationale s'il n'y a pas une résurrection culturelle. Vous savez qu'il y avait eu de grands débats, déjà depuis l'époque de Herzl, au sein de l'organisation sioniste mondiale, pour savoir s'il fallait que l'organisation sioniste s'occupe également de choses, disons, de spirituel, de culturel. Et les religieux avaient très peur de ça. Ils se disaient, si c'est comme ça, on va rentrer dans des débats entre les chilonim et les datim. Alors ils ont préféré mettre ça en veilleuse. Le Rav Kook, lui, n'était pas d'accord. Il disait au contraire, il n'y a pas de résurrection nationale sans résurrection spirituelle. Donc il faut s'occuper des deux, et même au prix de discuter qu'il y ait des frictions autour de la définition de la culture d'Israël. Et Weizmann et Sokolov ont répondu au Rav Kook, nous sommes des hommes profanes. Nous nous occupons du profane, c'est-à-dire du hol. Et vous, monsieur le grand rabbin, eh bien, vous allez vous occuper, vous, des affaires spirituelles. Ça a été une déception pour le Rav Kook. Le Rav Kook s'attendait à ce que le mouvement sioniste s'occupe également de spirituel. Il s'est dit, puisque c'est comme ça, je vais fonder un deuxième mouvement qui ne sera pas en rivalité avec le sionisme, mais qui sera là pour lui donner une âme. Ce mouvement, il l'a appelé Degel Yerushalayim, le drapeau de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le mot Tzion, qu'on trouve dans le sionisme, représente l'aspiration à l'indépendance nationale et que l'âme de cette aspiration s'appellera Jérusalem. En fait, c'est la même ville, mais ce sont deux aspects de la chose. D'ailleurs, je pense que vous aurez un cours aujourd'hui sur le fait qu'il y a une Jérusalem d'en haut, une Jérusalem d'en bas. Il y a un aspect donc de doublet dans le mot Yerushalayim qui veut dire quelque chose de double, comme on dit des ciseaux, misparaim, etc. Mishkafayim. Et donc, c'est ça qui fait que le Rav Kook a fondé son organisation d'Egel Yerushalayim, qui a été un échec total. Ça n'a pas réussi. Il manquait aussi bien de subsides que d'activistes. Mais en tout cas, l'idée est restée dans l'air. On peut dire que ça a pris forme à travers le mouvement dont vous rappelez certainement l'existence, Gush Emunim. Des gens comme Hanan Porat, comme Rav Levinger, qui ont ajouté, on pourrait dire, une phase supplémentaire au sionisme après la guerre des six jours, en décidant d'aller s'implanter dans les lieux où la Bible a été faite, où elle s'est vraiment, elle a été vraiment vécue, c'est-à-dire en Judée et en Samarie. Et donc depuis, il y a une tension au sein de l'État d'Israël, au sein de la société israélienne, entre ceux qui parlent du sionisme uniquement comme étant une entité politique et ceux qui parlent du sionisme en tant que également révélation, ou disons rédemption spirituelle. Donc nous avons ces deux dimensions et c'est ça qui se passe donc à Yom pardon. Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim. La question qui se pose, et à laquelle nous n'avons pas encore répondu, pourquoi est-ce que Dieu a laissé les choses se faire de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une conjonction absolue entre Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim? Et là, pour bien comprendre ça, je voudrais étudier avec vous un texte du Rav Kook dans le livre de Oroth. C'est à la page Pédalette, à la page Pédalette, c'est dans Orotatria, au paragraphe même guimel. À mon avis, c'est extrêmement fondamental ce passage. Une petite seconde, s'il vous plaît. Les allergies printanières font des dégâts. Cette idée du Rav Kook est reprise aujourd'hui par le nouveau groupe politique Im HaDegel. Intéressant, il y a toujours des groupuscules qui se forment à l'approche des élections. Si ce n'est pas, disons, mon objet, mais je pense que la meilleure manière de perdre les élections, c'est de faire des nouveaux partis. Mais bon, ça c'est une opinion personnelle. Vous en penserez ce que vous voulez. Je reprends ici cette pensée du Rav Kook. Alors pour comprendre ce texte du Rav Kook, c'est donc dans Orot Atria Mem Gimel, il y a chez les kabbalistes à nouveau trois niveaux fondamentaux de l'âme humaine qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, on peut dire l'aspect psychophysiobiologique de l'individu, c'est-à-dire mon être vivant qui agit dans ce monde, c'est le Nefesh. Il y a également le Ruach. Le Ruach, c'est l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire une motivation de s'occuper de choses qui sont au-delà de la nature. C'est ce qu'on appelle Ruach. Et puis vous avez un troisième niveau, beaucoup plus dissimulé, beaucoup moins présent, la neshama. La neshama, c'est-à-dire ce qu'on appelle, on pourrait dire, l'être idéal de ce que je suis. Freud aurait dit le surmoi, mais c'est en fait beaucoup plus fort que ça. Certains ont dit la conscience, mais on peut dire c'est beaucoup plus élevé que ça. C'est la racine de mon être, la neshama. Quand je dis que j'ai un nefesh, que j'ai un rouar, à qui appartiennent ce nefesh et ce rouar? Mais ils appartiennent à la neshama. La neshama étant l'être originel qui se subdivise en deux préoccupations, celle du nefesh et celle de la neshama. Une fois tout cela bien compris, je vous lis ici ce texte du Rav Kook. Un nefesh el poshe Israël chez Bikvita Dimshira. Le nefesh de ceux qui pêchent en Israël, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas religieux. Chez Bikvita Dimshira, à l'époque pré-messianique, c'est-à-dire la nôtre. Otam chez Mitrabrim be'aval inenek al Israël et Eretz Israël utriat auma. Il parle ici de ceux qui s'attachent avec amour aux affaires de la collectivité d'Israël, Eretz Israël et la résurrection nationale. Traduction, les non-religieux sionistes. Qu'est-ce qu'il en est de leur nefesh? Yoter Metukenet est en bien meilleur état, pourrait-on dire, mais un nefesh של שלמי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. C'est-à-dire, leur nefesh, à ces sionistes non religieux, est en bien meilleur état que le nefesh des religieux qui n'ont pas ce sentiment national. C'est-à-dire, on pourrait dire, l'option charédite. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et qui parle au téléphone. Oui. Bon. Mais là, il continue. Ava la rouar. Mais, pour ce qui est du rouar, Umetukan arbeyoter, il est en bien meilleur état. Et c'est-à-dire, et Hachem, chez ceux qui sont craignants en Dieu, Veshomre Torah ou mitzvot, et qui observent la Torah et les mitzvot, Afalpi, chez Argasha ha'atzmit, va être orerut, chez le koar poula, binyanek la Israël, namadain a mitzvot et tzlam, bien que leur éveil et leur force d'action pour la collectivité d'Israël n'est pas encore assez forte chez eux, kemo machem etzel ele, comme c'est chez ceux qui, qui ont un esprit détérioré qui trouble leur cœur, au point de s'attacher à des opinions étrangères et à des actions qui souillent le corps. Umonim or aruar milei. David, est-ce que tu peux fermer le micro à ceux qui parlent au téléphone? C'est fait. Bon. Ad kede leit kasher bedeotzer umasim amitamim etaguf umeav. Umonim or aruar milei taken et empêche la lumière du ruar d'être réparée. Umimela sovelet gamanefesh mpugamehem. Et de sorte que ça entraîne également une souffrance pour le Nefesh. Bon, alors j'ai été un peu rapide, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Ce que dit le Rav Kook, c'est que chez les sionistes chilonim, le Nefesh est en meilleur état, et chez les charedim non sionistes, c'est le Ruach, l'esprit, qui est en meilleur état. Maintenant, il y a une petite remarque au passage, le Rav Kook dit, les chilonim en question ont des opinions nocives et parfois des actions qui détériorent la pureté du corps et qui donc entraînent également une atteinte au rouar qui finalement fait que le nefesh lui aussi est détérioré. En tout cas, donc, il y a ici une critique implicite des chilonim, il y a également une critique explicite des charedim. Comment est-ce que cela va être réparé? Alors, le Rav Kook nous dit, Hatikun Sheyavo, Aliede Orosh El Mashiach, la réparation qui viendra par la lumière messianique. C'est quoi la lumière messianique? Ben, c'est la Kabbalah. Sheyazor Lazeharbe, qui sera beaucoup aidé, Dvar Ait Pashtut Shel Talmud Razet Torah Vigilu Orot Rochmat Elohim, lorsque on diffusera les secrets de la Torah et la révélation des lumières de la sagesse divine, Bechol Tsurote Aruyot Ligalot, de toutes les manières qui sont dignes d'être révélées, c'est-à-dire on ne peut pas révéler tous les secrets de la Torah, mais il y a des choses qu'on peut révéler, ou Sheye Asu Yisrael Aguda Achat, c'est qu'Israël devienne un seul faisceau. Vutetukan a Nefesh Shela Yereim Shomre Torah, de sorte que sera réparé le nefesh des craignants Dieu qui observent la Torah, ce nefesh sera réparé par la perfection du nefesh des bons pécheurs. Poshim Tovim. Beyachas Yene Aklal, en ce qui concerne les affaires de la collectivité, Betikvot Agashmiot Aruchaniot Amusagot Bakara Vergasha Enoshit, et les espérances spirituelles et matérielles qui sont accessibles aux sentiments humains, vers Ruach chez la poche Imaele, et le Ruach des pécheurs en question, Tetukan al-Ede Ashpaatam Sheliré Hashem Shomre Torah Ugdole Emuna, sera réparé par l'influence des craignants Dieu qui observent la Torah et qui ont une grande foi. Umimele, Yavo le ele ou les Hélé Orgadol, et de telle sorte que ceux-ci et ceux-ci vont recevoir une grande lumière, Veofaat, Teshuvah Shlema Tavola Olam, et la manifestation d'une Teshuvah entière arrivera au monde, Vazihu Israël Mouchanim la Geoula. Et alors Israël sera apte à sa Geoula. Ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a une différence entre le Nefesh et le Ruach, et donc il est important que dans le point de départ, non pas à l'arrivée, mais au départ, il y ait une séparation entre ceux qui sont spécialistes du Nefesh et ceux qui sont spécialistes du Ruach. Ce qui explique pourquoi ce n'est pas le même jour que tombe Yom HaAtzmaout, qui est destiné aux spécialistes du Nefesh, et Yom Yerushalayim, qui est destiné à ceux qui sont spécialistes du Ruach. D'ailleurs, il y a un phénomène assez intéressant. Nous trouvons souvent des Haredim qui ne font pas le Hallel à Yom HaAtzmaout, mais qui le font à Yom Yerushalayim. C'est-à-dire, il y a une identification du Ruach avec Yom Yerushalayim et du Nefesh avec Yom HaAtzmaout. Or, vous savez, c'est un grand principe dans la dialectique du Rav Kook, c'est qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les différentes préoccupations. C'est-à-dire, ceux qui sont préoccupés du sionisme n'ont pas le temps de mettre les téphilines. Et ceux qui veulent mettre les téphilines n'ont pas le temps de labourer la terre. Et donc, dans le point de départ, il y a séparation. Mais après, ça va se réunir. Qu'est-ce qui peut faire l'union? C'est en train de changer petit à petit. Qu'est-ce qui fait l'union entre le Nefesh et le Ruach? Eh bien, ce sont ceux qui sont ce qu'on peut appeler Baalei Neshama, ceux qui vivent non pas au niveau du Nefesh, ni au niveau du Ruach, mais qui ont une vie intérieure influencée directement par la Neshama. Ce sont les délégués de Eliyahu Hanavi. C'est le Rav Kook, par exemple. Regardez ce que dit ici le Rav. Avea tzadikim ha'elyonim mare de nishmata. Les grands tzadikim, ceux qui sont portés par la Neshama, hem yu atzinorot ha'me'achadim. Ce sont eux qui seront les canaux réunificateurs. Shaliyadam yavor shefa ora nefesh mismol le yamin, grâce auquel le flux de la lumière du nefesh passera de la gauche à la droite, veshefa ora ruach miyamin lismol, et le flux de la lumière du ruach de la droite à la gauche. Ce sont des expressions kabbalistiques, évidemment. Vetiya simchak de la meod, et alors la joie sera très grande. C'est-à-dire la joie, c'est dans l'unification entre le sionisme et la dimension de Torah, la dimension spirituelle. Et ça, c'est réalisé justement par le Rav Kook et ses élèves. Vetiya simchak de la meod, kohanecha yilbeshu tzedek, tes prêtres se vêtiront de justice, vachasidecha iranenu, et tes pieux se exulteront. Bon, c'est ce que, pour comprendre pourquoi il cite ce verset, il faut connaître, disons, la symbolique kabbalistique, mais ce n'est pas notre sujet. Vezeye bekoach oro shel Mashiach, shu David be'atzmo. Et ce sera par la force de la lumière messianique qui est David lui-même. Shehekim ula shel Teshuvah, qui est celui qui a relevé le statut de la Teshuvah dans le monde, bavour David avdecha, en faveur de David ton serviteur. Al tachev pene meshichecha, ne renvoie pas la force, la face de ton Messie. C'est-à-dire qu'il y a dans ceux qui relèvent de l'option davidique, l'option messianique, cette capacité de réconciliation entre ceux qui sont habités par le Nefesh et ceux qui sont habités par le Ruach. Quelle est la différence entre Oro shel Mashiach et Rucho shel Mashiach? Oro shel Mashiach, c'est ce qui nous vient de l'avenir, et Rucho shel Mashiach, c'est ce qui du passé va vers l'avenir. Pas d'accord lorsque vous dites que le fait. Attendez, attendez, je n'arrive pas toujours à lire là ce qui est écrit. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. À condition qu'il y ait des lois et des institutions appliquées qui garantissent la propriété, le transfert de la propriété aux héritiers. La présence et le fonctionnement de ces institutions nécessitent toutes sortes de cohortes. Je veux bien. Mais une seconde, qu'est-ce qu'il en est là? Pas d'accord lorsque vous dites que le fait d'hériter. Ah voilà. Pas d'accord. Lorsque vous dites que le fait d'hériter ne demande pas d'effort, car l'héritage passe de la personne décédée à ses héritiers, à condition qu'il ait des lois et les institutions appliquées qui garantissent la propriété et le fonctionnement et la transfert de la propriété aux héritiers. La présence de fonctionnement de ces institutions, c'est toutes sortes de cohortes. Disons comme ça, si quelqu'un se lève le matin à 6 h du matin et qu'il reçoit un coup de téléphone, on lui dit, voilà, votre arrière-grande-tante est décédée en Australie et vous héritez, elle est décédée à minuit et vous héritez de son ranch. Alors, celui qui reçoit le téléphone est très heureux. On lui dit, mais soit dit en passant, cette nuit, les taureaux du ranch ont fait irruption et ont fait des dégâts dans la ferme à côté, et vous devez payer 1 million de dollars. Est-ce que l'héritier peut dire, non, non, mais c'est pas à moi. Non, c'est à vous, malgré tout, parce que la loi fait que vous êtes l'héritier. Et tandis que pour acquérir un ranch, même par don, il faut pour cela l'accord de celui qui reçoit. Donc la différence entre l'héritage et celui qui acquiert, c'est que l'héritage se fait même à son insu et même contre sa volonté, tandis que l'acquisition se fait uniquement par consentement. Sauf les photos publiées pendant la guerre des Six Jours, la prière dans le désert, qui ont réintroduit la spiritualité profonde de la présence juive en Eretz Israël. Bon, effectivement, nous avons tous été très émus lors de la guerre des Six Jours, je m'en rappelle encore. Maintenant, il y a également une allusion dans le Talmud à cette division entre. Vous étiez en Israël? Non. Il y a une différence. Non, pardon, pas une différence. Il y a une allusion dans le Talmud à cette éventualité de la séparation entre deux Hallel. Vous savez que la Guémara dans le traité de Megillah demande pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Pourim. Maintenant, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait le dire? Alors la Guémara dit, mais c'est très simple. Si déjà on dit le Hallel quand nous sortons de l'esclavage à l'indépendance, à plus forte raison quand nous sortons de la mort à la vie. Or, ce qui s'est passé lors de la fête de Pourim, c'est que nous avons échappé à l'extermination. Donc, à plus forte raison. Or, quand on voit les motivations des rabbins qui ont fixé le Hallel aussi bien pour Yom HaAtzmaout que pour Yom Yerushalayim, c'est effectivement, ce sont ces deux motivations-là. Il y a d'une part là, pour le jour de Yom HaAtzmaout, c'est parce que nous sommes passés de la servitude à l'indépendance. Et pour ce qui est de Yom Yerushalayim, c'est parce qu'il y avait un danger réel d'extermination de l'État d'Israël à l'époque. Donc, c'était appelé Mimita Lechaim. Donc, vous avez ici deux motivations différentes qui sont déjà en allusion dans la Guémara. Maintenant, si on va un peu plus loin, il y a une instruction des kabbalistes qui est que quand on fait la prière de Rosh Chodesh au début du mois, on doit avoir en intention, dans la bénédiction qu'on récite, d'une permutation possible des 4 lettres du nom de Dieu. Comme vous le savez, le nom de Dieu est formé de 4 lettres qui sont Yud-Ké-Vav-Ké. Et chaque mois de l'année représente une autre combinaison de ces 4 lettres. Et il y a même un verset pour chacune des permutations qui nous dit à quelle permutation il est fait allusion dans le mois en question. Par exemple, pour ce qui est du mois de Nissan, le premier des mois, alors les 4 lettres sont dans l'ordre. Et le verset, c'est Yismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Que le ciel se réjouisse, que la terre exulte. Effectivement, le mois de Nissan, c'est là que tout est en ordre. C'est là qu'il y a la soirée du Seder, de l'ordre. Et donc, les lettres sont en ordre. Qu'en est-il du mois d'Iyar? Eh bien, pour ce qui est du mois de Iyar, ce n'est pas Yud-Ké-Vav-Ké, mais c'est Yud-Hé-Hé-Vav. C'est-à-dire les deux dernières lettres sont inversées. Et pourquoi? Quel est le verset qui y fait allusion? Là, de nouveau, les kabbalistes nous disent, c'est Kim Bazot, car que ce soit par cela, Git Hallel Hamit Hallel Askel Veyadoa Oti. que se glorifie celui qui se glorifie, c'est quand il me connaît et quand il me comprend et me connaît. Alors, les initiales de Yit Hallel, Amit Hallel, Haskel, Veyadoa, c'est Yud, He et Vav. Donc, vous avez les quatre lettres du nom de Dieu qui, en allusion, nous disent deux fois le Hallel. Le Hallel du début du mois, Yit Hallel, et puis après, vous avez le deuxième Hallel, Mit Hallel, pour ce qui est de Yom Yerushalayim. Donc, et ça nous a amené à Haskel Veyadoa. Haskel Veyadoa, ça veut dire comprendre et connaître. C'est-à-dire, il ne suffit pas simplement de vivre les événements de l'État d'Israël, l'indépendance, le retour à Jérusalem, il faut également comprendre ce qui se cache derrière ces choses-là. C'est pour ça que dans le psaume que nous récitons à l'introduction de Harvit, aussi bien Yom HaTzimut Kayim Yerushalayim, on finit par Mi Chacham Ve'Yishmor Elle, qui a la sagesse pour intégrer ces choses-là, Ve'Yitbonenu Chasdei Hashem, et de comprendre les bontés du Créateur. Et donc, c'est ça qui est très important pour nous, de comprendre quelle est la providence qui se cache derrière ces événements. Il y a un texte de la Guémara repris par le Zohar, qui est que Dieu a affirmé, mais dans le Zohar c'est dit a juré, de ne pas entrer dans la Jérusalem céleste tant qu'Israël ne sera pas rentré dans la Jérusalem terrestre. Et qu'est-ce que c'est que ces deux Jérusalem? Eh bien, la Jérusalem terrestre, on la connaît. C'est là où nous vivons. Et quelle est la Jérusalem céleste? Alors, à nouveau, nous rentrons dans les enseignements des kabbalistes. Il s'agit d'un type particulier d'âme. Il y a des âmes. Les kabbalistes, vous savez, font des, disons, classifient les différentes sortes d'identités selon la racine de l'âme de chacun. Alors, vous avez des âmes qu'on rattache, par exemple, à Caïn, et d'autres qu'on rattache à Hevel. Caïn et Abel sont à l'origine de toutes les sortes d'âmes que nous trouvons dans l'histoire. Mais il y a des âmes supérieures qui sont au-dessus de cette division, qu'on appelle Yerushalayim Shel Mala, qui relève de la Jérusalem céleste. Or, ce que nous dit le Zohar, à la suite de la Guémara, c'est que Dieu n'entre dans la Jérusalem d'en haut que lorsqu'Israël entre dans la Jérusalem d'en bas. Et ce qui veut dire, c'est l'interprétation du Rav Getz, Zichrono Livracha, qui était le rabbin du Kotel, et également un des plus grands kabbalistes de la génération, qui disait, la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire, il y a des âmes particulières qui arrivent dans notre monde uniquement après la guerre des six jours, lorsque Israël est rentré dans la Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire, il faut d'abord que les enfants d'Israël rentrent dans la Jérusalem d'en bas, ça s'est fait lors de la guerre des six jours, et à partir de ce moment-là, arrivent des âmes particulières. Or, effectivement, on voit dans la génération qui est née après la guerre des six jours qu'il y a souvent une perception spirituelle inégalé auparavant. Je me rappelle que le Rav Tzvi Yehuda Kouk, quand il voyait que des jeunes étudiaient les livres du Rav Kouk, était ému aux larmes. Pourquoi il était ému aux larmes? Il dit, qui aurait cru dans ma jeunesse que des jeunes puissent comprendre ces enseignements aussi profonds? Et donc, ça a commencé d'ailleurs par l'irruption de l'âme d'Israël chez les parachutistes qui libèrent le Kotel. Quand ils libèrent le Kotel, ils sont émus, ils ont des larmes aux yeux, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que ce n'était pas eux qui ont prié, c'était en fait leur âme qui se manifestait, c'était plus précisément l'âme collective d'Israël qui pleurait à travers leurs yeux. Ce qui explique d'ailleurs un événement assez incroyable. Il y a quelques années, certains de ces parachutistes sont passés à la télévision et ont dit, nous n'avons pas pleuré. Ah bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on vous a entendu pleurer? Ben, ce n'était pas eux. C'était l'âme d'Israël qui pleurait à travers eux. Il y a d'ailleurs souvent des phénomènes assez curieux. Quand des gens s'approchent de la vieille ville, et encore plus fortement quand ils s'approchent du Kotel, ils ont brusquement un ébranlement spirituel qui les fait pleurer, même s'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est parce qu'ils vivent le moment d'une rencontre. Et c'est ça qui s'est passé lors de la guerre des six jours. Il y a de même qu'il y a une différence de quelques semaines entre Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim. Vous avez également une différence dans l'histoire de 19 ans entre les deux événements. En effet, la guerre des six jours a eu lieu 19 ans après l'indépendance d'Israël. On n'a pas réussi à l'époque à libérer Jérusalem. Et je rappelle que la vieille ville est tombée le 20 du mois d'Iyar. Et cette... Pardon. Or, le 20 du mois d'Iyar, à l'époque, c'est une chose qui a été oubliée, le grand rabbinat d'Israël avait institué un jour de deuil pour mentionner la chute de Jérusalem, et ce jour était appelé Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. C'est une chose qui a été oubliée. Cette année, j'ai quand même été assez frappé du fait que c'est le jour du 20 Iyar que nous avons appris la disparition du grand rabbin de Jérusalem, le Rav Aryeh Shteren. Il y a quelques jours, il est décédé. C'était le jour donc de la chute de Jérusalem. Et il y a eu, après, bon, après 19 ans, quand il y a eu la libération de Jérusalem, tout cela a été oublié. Mais rappelons-nous une chose. La Jérusalem, pourquoi 19 ans? Alors, il y avait un événement aussi qui est important de rappeler, c'est que quelques jours, le jour de Yom HaAtzmaout en 1967, le Rav Tzvi Yehuda Kouk a prononcé des paroles prophétiques dans lesquelles il a dit: nous oublions Shrem, nous oublions Hevron, nous oublions toutes les parties de notre terre qui ont été divisées, qui ont été partagées et qui sont aujourd'hui sous domination jordanienne. Nous avons oublié tout cela. Et quand il a prononcé ces paroles, on avait le sentiment effectivement d'un souffle prophétique. D'ailleurs, et quelques semaines plus tard, Jérusalem a été libérée, ainsi que Yehuda, Shomron, le Golan, le Sinaï et à Gaza. On a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kouk, qu'est-ce qui l'a amené à parler de ces choses-là à ce moment-là? Il a répondu à celui qui lui a posé la question: j'ai été parlé en moi, Nidbarti Levad, quelque chose a parlé en moi, ce n'était pas de moi que ça venait. Effectivement, donc c'était des paroles prophétiques, et le Rav Tzvi Yehuda donc expliquait que 19 ans étaient passés, et ça nous amène au 19e psaume de Tehilim. Le 19e psaume de Tehilim est divisé en deux parties. Ça commence par sept versets qui parlent de la nature, de la grandeur de Dieu dans la nature, le soleil et la lune, etc. Et puis après, ça parle de la Torah à partir du huitième verset. C'est-à-dire que quand on arrive à la 19e année, on monte de niveau. Nous passons de la dimension naturelle, c'est-à-dire l'état d'Israël, à la dimension de l'âme, c'est-à-dire le retour à Jérusalem. Ce qui explique également donc qu'il a fallu 19 ans pour faire la différence entre les deux et se préparer à cette élévation spirituelle. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est déjà pas mal pour cette fois-ci. À bientôt. Shalom David, shalom à tout le monde.
Merci
Voilà.
beaucoup, Rav. Shavuot Tov, Chag Yerushalayim, Sameach Be'ezrat Hashem. Des très bonnes nouvelles. Pas de Hallel? Où y a le Hallel à Yom Yerushalayim?
Bien sûr, on va le Hallel, mais le matin.
Le matin, pas le soir.
Pas le soir, le vendredi matin.
Non,
Shalom, shalom.
jeudi matin.
Non, ben.